Le président du gouvernement, Alcide Ponga, va signer la semaine prochaine la convention relative à la seconde tranche du prêt garanti par l'État. Les élus du Congrès étaient réunis ce matin pour lui en donner l'habilitation. L'enseignement catholique toujours en grande difficulté. Près de 350 manifestants ont été rassemblés ce matin devant le Congrès, selon la police, pour faire part de leurs inquiétudes. Comment relancer le tourisme en Nouvelle-Calédonie? C'est la question à laquelle essaient de répondre le gouvernement et les acteurs du secteur. Christopher Gigès était ce matin à Koné pour rencontrer les prestataires touristiques. Le Fénois s'invite jusqu'à demain sur la place des Cocotiers. Plus de 80 stands sont présents pour faire découvrir aux visiteurs les trésors de la Polynésie française. Un événement qui se tient exceptionnellement sur 2 jours. Quand le sport devient un levier de transformation sociale, ce sujet sera développé ce soir au Centre culturel Chibaou. La Fondation Roger Cadour y organise son colloque qui est déjà complet. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Sébastien Lecornu écarte l'hypothèse d'une dissolution et il annonce un nouveau Premier ministre d'ici 48 heures. L'information a été confirmée par l'Élysée peu après l'intervention de Sébastien Lecornu sur France 2. Elisabeth Noir, dans sa déclaration, il a réaffirmé que la Nouvelle-Calédonie faisait partie des urgences nationales.
Un Premier ministre d'ici 48 heures, l'Élysée a confirmé l'information donnée dans un premier temps par Sébastien Lecornu. Le Premier ministre démissionnaire s'exprimait dans le 20h de France 2 ce matin pour nous, après 2 jours d'ultimes négociations.
Je sens qu'un chemin est possible encore, il est difficile, et j'ai dit au président de la République que les perspectives de dissolution s'éloignaient et que je pense que la situation permet pour le président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures.
Un nouveau Premier ministre d'ici 48 heures, une annonce qui a été très vite confirmée par l'Élysée. Sébastien Lecornu en est arrivé à cette conclusion parce qu'il y a, dit-il, un refus majoritaire d'une dissolution. Le Premier ministre démissionnaire qui a été interrogé sur la possibilité qu'il soit lui-même reconduit à Matignon, mais il en a écarté l'hypothèse.
Moi, j'ai présenté ma démission lundi matin. Je pense donc démontrer que je ne cours pas après le job dans la mesure où j'ai démissionné. J'ai accepté de faire 48 heures dans des conditions qui ne sont pas que faciles. J'ai un côté moins de soldat, donc j'ai accepté évidemment la mission que le président m'a demandée. Ce soir, je considère que ma mission est terminée.
J'ai un côté moins de soldat, déclare Sébastien Lecornu, qui considère que sa mission est terminée, même s'il n'a pas totalement exclu de se succéder à lui-même. Et si un certain nombre d'observateurs pensent qu'il pourrait être renommé à Matignon. Il a désormais l'intime conviction que l'équipe qui devra prendre les responsabilités dans les temps à venir devra être complètement déconnectée des ambitions présidentielles pour 2027. Sébastien Lecornu est aussi revenu sur les urgences et parmi elles, la Nouvelle-Calédonie.
J'ai dit à chacune des forces politiques que je voyais 2 urgences, 3, un budget pour l'État, un budget pour la sécurité sociale, et pardonnez-moi, pour moi, à titre personnel, ce n'est pas anecdotique, les textes sur la Nouvelle-Calédonie, puisqu'à 18 000 km d'ici, nous avons une situation institutionnelle qui ne peut pas attendre. Et ça, c'est ce que j'ai dit à chacune des formations politiques que j'ai reçues pendant 48 heures, et toutes m'ont dit qu'on ne pouvait pas prendre le risque d'avoir, enfin, toutes celles qui sont venues me voir, pour être précis, donc hors LFI et Rassemblement National, pardonnez-moi, toutes m'ont dit qu'il ne fallait pas prendre le risque de ne pas avoir de budget au 31 décembre parce que les conséquences pour la France et les Français seraient absolument dramatiques.
Un projet de budget pour 2026 pourrait être présenté en Conseil des ministres lundi, date butoir pour qu'il soit adopté d'ici la fin de l'année par le Parlement, mais il ne sera pas parfait, reconnaît le Premier ministre démissionnaire. Sébastien Lecornu précise aussi qu'il faudra trouver un chemin pour que le débat ait lieu sur la réforme des retraites. Cette déclaration a suscité en tout cas de très nombreuses réactions, et notamment celle des 2 députés calédoniens qui ont naturellement suivi l'entretien du Premier ministre démissionnaire. Sébastien Lecornu a évoqué brièvement la Nouvelle-Calédonie en rappelant qu'elle faisait partie des 3 urgences du pays, avec le budget de l'État et celui de la sécurité sociale, des propos qui ont rassuré Nicolas Metzdorf, le député de la première circonscription.
La France traverse une crise politique sans précédent et Sébastien Lecornu arrive à parler de la Nouvelle-Calédonie. Il ne parle d'aucun autre territoire, ni de l'Hexagone, ni des Outre-mer. La Nouvelle-Calédonie est mise au même plan dans les urgences que le budget de la nation. Donc c'est quand même à souligner. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'a pas dit beaucoup de mots. Mais il a dit des choses importantes. Il a dit que les textes étaient urgents. Mais quels sont ces textes? Le premier, c'est le décalage des élections provinciales. C'est-à-dire que Sébastien Lecornu pense qu'il faut décaler rapidement les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi faire? Pour voter le deuxième texte qui est la modification de la Constitution pour entériner l'accord de Bougival. Donc Sébastien Lecornu, en peu de phrases, a tout dit. Il a dit qu'il faut décaler les élections provinciales pour entériner l'accord de Bougival. C'est ça qu'il a dit ce soir, Sébastien Lecornu. Et donc, pour moi, je suis très satisfait de son intervention parce que, un, il parle de la Nouvelle-Calédonie et, deux, il confirme qu'il faut aller au bout de l'accord qu'on a trouvé. Donc, j'ai trouvé que son intervention était excellente, comme toujours.
Le député indépendantiste Emmanuel Tchibaou a lui aussi relevé l'allusion de Sébastien Lecornu au projet de loi organique reportant les provinciales à juin 2026. Emmanuel Tchibaou qui réaffirme la position du nouveau FLNKS. Bougival est seulement un projet d'accord qui n'a pas obtenu le consensus et en conséquence, il se dit opposé au report des provinciales.
La proposition du projet de loi organique, pourquoi elle est amenée aujourd'hui? C'est parce qu'on s'inscrit dans le calendrier de Bougival, du projet d'accord de Bougival. Aujourd'hui, le projet il est contesté. On ne peut pas dire qu'il fait consensus au pays.
Par un parti sur sept.
Voilà. Et à la différence de ce qui a été la proposition qui a été amenée à Deva, on a toujours privilégié le consensus. Aujourd'hui, on choisit la question démocratique en faisant valoir un parti sur sept. Je dis que ce n'est pas comme ça que les accords précédents ils ont été signés. Si on doit avoir un débat apaisé, ce qu'on dit, il faut donner, reconforter la légitimité de ceux qui posent les enjeux qui sont éminemment politiques. Quand on parle de la question des provinciales, c'est de fait la déclinaison politique de la manière dont notre pays il est organisé et géré, puisque en découle la majorité au Congrès et de fait le gouvernement qui en émane.
Emmanuel Tchibaou et Nicolas Metzoff étaient au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
Et demain midi, Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Vous reviendrez sur cette folle semaine politique en compagnie du député Nicolas Metzdorf qui sera interrogé depuis Paris. Il reviendra sur l'intervention de Sébastien Lecornu, mais aussi sur les scénarios possibles pour la Nouvelle-Calédonie et sur la manière dont il a vécu cette crise politique inédite. Le député Nicolas Metzdorf, invité de Transparence. Une interview à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Êtes-vous soulagé que Sébastien Lecornu ait fait de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie l'une des priorités nationales en proposant au socle commun de concentrer les négociations sur le budget de la France et la Nouvelle-Calédonie? Si vous êtes soulagé, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et la réponse à notre question d'hier, nous vous demandions quelle est selon vous la solution pour sortir de la crise politique sans précédent que connaît la France. 48% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent partisans d'une démission du président de la République. Ils sont 38% à préférer la nomination d'un nouveau Premier ministre. Ils sont enfin 14% à se dire partisans d'une dissolution de l'Assemblée nationale. L'actualité sur le territoire, les élus du Congrès en séance publique ce matin, boulevard Vauban, pour une session extraordinaire. À l'ordre du jour, l'examen de deux projets de délibération habilitant le président du gouvernement à signer des conventions avec l'État, Lionel Sabot.
Les élus qui ont notamment habilité Alcide Ponga à signer les conventions avec l'État et l'AFD, l'Agence française de développement, relatives à la seconde tranche du prêt garanti par l'État, une tranche de 240 millions d'euros. 219 millions seront fléchés au budget direct de la Nouvelle-Calédonie et 21 millions iront notamment en dotation pour les communes. Thierry Santa, membre du gouvernement en charge du budget et des finances.
Je remercie les membres du Congrès d'avoir adopté cette délibération parce qu'effectivement, elle va permettre maintenant au président de signer la convention avec l'État d'une part et l'AFD d'autre part, qui est prévu dès le début de la semaine prochaine, et derrière le versement du montant dont nous avions absolument besoin compte tenu des tensions de trésorerie extrêmement fortes que la Nouvelle-Calédonie connaît aujourd'hui et qui se répercutent sur les autres collectivités, puisqu'à cause de ces tensions de trésorerie, nous n'avons pas pu verser à la hauteur attendue par les communes et les provinces les dotations qui leur sont dues.
Le texte a été adopté à la majorité des élus, même si pour certains, à l'image de Philippe Gomez de Calédonie Ensemble, ce vote s'est fait la mort dans l'âme.
On a 25% de nos recettes fiscales qui ont disparu, on a 15% de notre PIB qui a également disparu, et l'État dit « vous inquiétez pas, je vous prête à 5% de taux d'intérêt ». Franchement, même si demain, vous allez emprunter pour construire une maison, par exemple, vous empruntez sur 25 ans, vous allez dans une banque de la place, non, vous allez emprunter moins cher que la Nouvelle-Calédonie emprunte, et sans garantie de l'État, et vous n'êtes pas une collectivité, vous êtes un particulier. Donc non, C'est inacceptable, c'est inadmissible. Maintenant, on a le couteau sous la gorge, donc on n'a pas d'autre choix que de la voter, cette seconde tranche. Mais franchement, c'est la mort dans l'âme.
Alcide Ponga, le président du gouvernement, signera donc les conventions avec l'État et l'AFD en début de semaine prochaine. Mais au-delà de cette deuxième tranche du prêt garanti par l'État, il faut aller plus loin. Virginie Rufnacht, chef du groupe Rassemblement au Congrès.
C'est bien d'avoir des fonds, mais ça ne sert à rien. Si nous n'avons pas une stabilité politique pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, on aura beau mettre tout l'argent du monde. Si les élus politiques de la Nouvelle-Calédonie ne s'engagent tous pas vers la défense de cet accord qui est sur la table aujourd'hui, pour donner des perspectives à l'ensemble des Calédoniens, eh bien, ça sera finalement des fonds qui tombent dans un puits précisément sans fond. Nous appelons donc à une stabilité politique pour permettre l'accompagnement de l'État de manière efficace. Et c'est une bonne chose aujourd'hui que nous puissions mettre en place des réformes, avoir une stabilité sur l'avenir et en même temps avoir l'accompagnement de l'État qui est indispensable.
J'ajoute que les élus ont également examiné et adopté à l'unanimité cette fois-ci le projet de délibération approuvant la convention conclue entre l'État et la Nouvelle-Calédonie relative à l'attribution d'une subvention dans le cadre de la réhabilitation et de l'extension d'entrepôts de stockage et de distribution de viande de l'OSEF à Bouraille.
Et dans un même temps, l'enseignement catholique est au bord de la rupture. L'ADEC a une nouvelle fois alerté sur sa situation financière ce matin. Près de 350 manifestants, selon la police, étaient rassemblés devant le Congrès pour faire part de leurs inquiétudes. Voilà plusieurs années que, malgré des mesures prises en interne pour réduire les coûts de fonctionnement, l'enseignement privé est en difficulté. Des difficultés qui ne cessent de s'aggraver. À fin novembre, la trésorerie sera épuisée, alerte Manuel Van Erskot, le directeur de l'ADEC.
Je ne vais pas dire satisfait parce que ce sont des choses qui ont été dites à l'oral, mais je sors quand même confiant, voilà, raisonnablement optimiste, voilà, parce que des élus ont affirmé des choses que je n'avais pas entendues, mais certes je ne suis en place que depuis 10 mois à ce poste, mais nous avons entendu, et je crois, une réelle volonté des élus du Congrès de faire avancer ce dossier de la DEC au bénéfice de tous les élèves que leurs parents nous confient sur toute la Nouvelle-Calédonie. Donc, effectivement, nous avions environ 500 personnes lors de cette manifestation, en sachant que tous nos établissements ont continué à fonctionner et que tous les élèves ont eu un professeur devant eux.
C'est une manifestation qui est appelée à être renouvelée ?
J'espère que non. Notre place n'est pas dans la rue. Notre place n'est pas sur le coltard. Notre place est dans les établissements, au service des élèves, dont leurs parents nous confient l'éducation, et également dans les services administratifs. Notre place n'est pas dans la rue.
En mars dernier, l'ADEC avait averti qu'elle ne pourrait plus honorer les salaires de ses 513 employés dès fin avril. Une contribution exceptionnelle de 500 millions de francs avait donc été demandée aux institutions. Cette année, 12 100 élèves sont inscrits dans des établissements catholiques. Des réunions auront lieu la semaine prochaine, notamment avec la commission enseignement du Congrès, puis avec Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l'enseignement. 17h58, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire et notamment cette question, comment relancer le tourisme.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Info soir, Léana Colombo.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les acteurs touristiques tente de relancer le secteur qui est en berne. Après une première rencontre avec les acteurs en province sud en septembre dernier, le membre du gouvernement chargé de l'économie et des sujets liés à l'attractivité du territoire, Christopher Gigès, s'est rendu ce matin à Connay pour rencontrer des prestataires du Nord. Une série de concertations pour mettre en place une feuille de route d'ici la fin de l'année et ainsi faire revenir les touristes. Le membre du gouvernement, Christopher Gigès.
Il y aura des actions très précises sur la promotion internationale, le renforcement de certaines lignes ou certaines activités de promotion, sur la question de la desserte aérienne, mais aussi des capacités à vendre des meilleurs packages aux touristes en Nouvelle-Calédonie, une offre de formation qui serait peut-être plus adaptée ou en tout cas mis en synergie avec des pays de la région. Mais cette feuille de route, elle sera vraiment présentée d'ici un ou deux mois. Là, l'important, c'était d'aller à la rencontre des professionnels directement sur le terrain et pas prendre des mesures qui soient déconnectées de leur réalité.
Une rencontre devrait avoir lieu prochainement avec les prestataires touristiques des îles Loyauté, puis à Bouloupari, avant, vous l'avez entendu, la mise en œuvre de la feuille de route d'ici la fin de l'année. Une mobilisation contre le déménagement d'Air Calédonie de l'aérodrome de Magenta vers Tontouta. Ça se passera demain avec deux événements au programme. À Lifou, une opération île morte sera organisée. Tous les commerces, institutions et structures touristiques seront fermés. Et à Nouméa, une marche pacifique démarrera dès 8h30 de la baie de la Moselle jusqu'au gouvernement en passant par le Congrès et le Haut Commissariat. Pierre Oucajo, vice-président du comité de coordination coutumière Nedjeou, conteste ce transfert pour des raisons sociales et économiques.
On n'est pas très content par rapport au déplacement de Magenta vers la Tontouta. Ça nous pénalise beaucoup. Déjà, c'est très loin. D'aller à Tontouta, revenir sur nous-mêmes, avec les perturbations qu'il y a eu depuis un moment, c'est-à-dire les annulations des vols, pas mal de choses. Hein. Le problème, vous savez, l'éloignement, la sécurité sur la route, le coût supplémentaire, et puis les problèmes pour les fouettes, tout ça. Il y a vraiment un impact social et économique quoi, par rapport si on déplace Magenta vers la Tontouta.
La marche de demain se veut pacifique et apolitique. Le comité rencontrera en fin de matinée des représentants du gouvernement, mais aussi du Haut Commissariat. Malgré la situation catastrophique de l'économie calédonienne en raison des violentes insurrections de mai 2024, certains chefs d'entreprise, certaines sociétés ne baissent pas les bras et se lancent dans des investissements en Nouvelle-Calédonie. Deux d'entre eux étaient vos invités, Elisabeth Noir, ce midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
Dans la Calédonie de 2025, avec son cortège d'incertitudes, de crises et de risques, ils ont en effet choisi d'investir. C'est le cas de Mathieu Daimi, directeur de Terra Calédonia, qui a lancé la construction d'une usine de fabrication de chips, et de Martin Fessard, le directeur général de Total Energy, qui met en œuvre plusieurs investissements. L'usine de fabrication de chips de Terra Calédonia est actuellement en construction sur la ZAC Panda à Dimbéa. Elle sera livrée en juin 2026 et les premiers paquets de chips pourront être goûtés à partir d'août ou septembre 2026. Pour son directeur et concepteur, Mathieu Daimi, c'est un projet de bon sens qui s'inscrit dans une démarche de développement durable.
On est en train de répondre à plusieurs critères. Il y a l'autonomie alimentaire, donc ça c'est important. Il y a le développement d'une filière, à l'occurrence la culture des pommes de terre. Il y a le côté écologique. J'ai fait une petite recherche pour transporter 1 kg de chips. C'est 240 grammes de carbone aujourd'hui. Donc c'est un truc fou. On fait venir les pommes de terre du fond du monde, on les transporte par container pour arriver chez nous. On ne se soucie pas de l'impact environnemental, de ce que ça peut engendrer. Donc notre usine aura déjà le mérite de supprimer cette empreinte au carbone, faire mieux parce qu'on va travailler sur des produits naturels, locaux, avec une maîtrise de l'ensemble de la filière, avec des arômes naturels et des produits, je l'espère, croustillants et plutôt bons à consommer.
Il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie produit quelques 3000 tonnes de pommes de terre par an et que l'usine aura besoin de 250 tonnes annuelles. L'investissement est de 350 millions et Mathieu Daimé explique que le projet a pu être monté grâce notamment au soutien de la province sud du gouvernement et aussi de l'intervention de la double défiscalisation. Un tout autre type d'investissement pour Total Energy qui va insuffler 10 milliards dans l'économie calédonienne d'ici 2028. C'est ce qu'a détaillé son directeur général en Nouvelle-Calédonie, Martin Fessard.
Je dirais que sur les 4 filiales, 4 sociétés qu'on représente ici, c'est à peu près 10 milliards d'investissements sur la période 2020-2028. Le gros du sujet, un peu plus de 6 milliards, c'est sur le renouvelable, en particulier le photovoltaïque. Il y a 2 projets principaux. Il y en a un qui est en construction, qui est du côté de Connay. C'est 360 millions déjà d'investissements. C'est une petite ferme solaire. Le gros projet, c'est la tranche 3 de Boulou-Paris, qui représente à peu près 6 milliards à lui tout seul d'investissements. Et ça sera plutôt sur 2026-2027.
Total Énergie investit dans le photovoltaïque en Nouvelle-Calédonie, mais elle investit également dans ses stations-service et dans ses infrastructures.
La deuxième grosse partie, c'est la modernisation et le développement de notre réseau de stations-service. On a 37 stations-service, des projets de renforcement de notre maillage. Donc il y aura 2 nouvelles stations à des endroits où on est, mais aussi à des endroits où on n'est pas présent. La modernisation aussi de nos infrastructures pétrolières pour répondre aux exigences et aux standards de Total. Et puis, 2 choses de développement, c'est les boutiques. Donc la rénovation, l'extension des boutiques, la mise en place de nouveaux concepts très innovants. Et puis la partie de lavage. On sait que les Calédoniens sont très attachés à leur voiture et à la propreté de leur voiture. On est fort sur le sujet et on va continuer à développer cette partie-là.
Et quand on leur demande s'il n'est pas déraisonnable d'investir aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, les 2 chefs d'entreprise affichent leur confiance et leur optimisme, à l'image de Mathieu Odeimi, le directeur de Terra Calédonia.
Effectivement, on a traversé des moments de doute suite à ce qui s'est passé. Effectivement, l'accord de Bougival a redonné un petit appel d'air. Donc le mois de juillet, c'est un mois plutôt normal en termes de fonctionnement au niveau de la Nouvelle-Calédonie. On voit très vite que les annonces ont des effets très importants et exagérés en Nouvelle-Calédonie. Mais ça va dans les 2 sens. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qu'une bonne nouvelle peut de suite redresser la barre, comme une mauvaise nouvelle peut malheureusement l'incliner vers le bas. Donc moi, j'ai tout à fait confiance parce que j'ai eu la chance, je dirais, ma vie a fait que j'ai habité dans des pays où c'était beaucoup plus compliqué. Je viens du Liban, donc on a encore beaucoup d'atouts en Nouvelle-Calédonie. La situation est loin d'être catastrophique, même si la tension, elle est là, il y a des problèmes économiques, plein de choses à régler, mais c'est nullement comparable à ce qu'on peut traverser par ailleurs. Et il suffit de regarder dehors, il fait beau, on a tout ce qu'il faut, vraiment. Là, il faut avancer, il faut penser à l'avenir et il faut commencer à construire.
Et vous pouvez retrouver ce jeudi de l'économie en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
RRB, il est 18h07.
La Polynésie française à l'honneur sur la place des Cocotiers. Exceptionnellement, ce jeudi du centre-ville spécial Tahiti est prévu sur 2 jours. Depuis l'ouverture des portes ce matin, les exposants proposent de l'artisanat, de nombreuses animations, des spectacles de danse ou encore de la gastronomie. L'occasion de découvrir les traditions des 5 archipels de Tahiti. Et les visiteurs étaient nombreux à profiter des spécialités polynésiennes.
Ça fait plaisir de voir la Polynésie à l'honneur et en Nouvelle-Calédonie. Tout ce qui est à manger, donc les gâteaux, mais tout ce qui est les plats chauds aussi.
C'est super, on voit plein de choses. Il y a plein de stands, surtout plein de stands de nourriture aussi. Là, on a craqué sur le gâteau tahitien. C'est un gâteau au chocolat avec une meringue avec du citron et de la noix de coco. C'est super bon.
Les stands sont magnifiques, magnifiques. Bah, on a déjà goûté la noix de coco, on a déjà acheté bracelet, donc très bien. On a écouté la musique, puis on est encore là pour...
C'est très chouette, je vois plein de choses, plein de couleurs, et c'est plein de bonnes choses à manger, ça me donne faim. J'ai déjà acheté de la salade de poisson et du poé.
Le jeudi du centre-ville spécial Tahiti, c'est jusqu'à 19h ce soir et ça reprendra demain de 9h à 19h, toujours sur la place des Cocotiers. Ce week-end, Kwawa célèbre ses 30 ans. À cette occasion, une fête communale est organisée sur 2 jours, soit demain et samedi. À retrouver sur le terrain de football du village, un espace marché, des prestations musicales, des danses et des animations avec des sorties en mer, des balades à cheval ou encore des randonnées. Une exposition sur l'histoire de la commune sera également à retrouver sur place. Le rendez-vous est donné demain de 10h à 20h et samedi de 8h à 21h. Et la fête du bœuf revient ce dimanche à Païta pour une 27e édition. L'événement qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs années sur la commune avait également été reporté de juillet à octobre en raison de la mauvaise météo. Près de 20 000 Calédoniens sont attendus au carré de Gadji et au programme notamment des jeux équestres, du rodéo, un concours de barbecue mais aussi la dégustation de l'incontournable veau à la broche. Une fête sur laquelle nous reviendrons demain avec notre invité du matin, la maire de Païta, Marie Bénigne d'Arcangelo sera en effet notre invitée à 7h30. Autre événement sur le territoire, la fête de la science qui se termine lundi prochain autour du thème des intelligences. L'ambassadeur de la fête de la science, Colin de la Higuera, professeur à Nantes Université et titulaire de la chaire UNESCO sur l'intelligence artificielle et la pédagogie, était notre invité dans le journal de 11h30. Il a participé à de nombreux ateliers partout sur le territoire et donnera même une conférence lundi soir à l'UNC autour de l'impact de l'IA dans l'éducation.
Est-ce qu'on apprend de la même manière aujourd'hui avec l'IA ? On a tous des enfants, des adolescents chez nous qui l'utilisent. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est plus compliqué ou moins compliqué pour les enseignants ? Les élèves l'utilisent beaucoup, probablement trop d'ailleurs. Mais ils l'utilisent beaucoup, certains se posent les bonnes questions, c'est-à-dire celle de se dire, est-ce que je l'utilise pour m'aider à apprendre, ou est-ce que je suis en train de l'utiliser pour apprendre à ma place ? D'accord ? C'est ça la question clé. Globalement, je n'ai pas de surprise, je vois des élèves qui effectivement l'utilisent, par exemple, typiquement, pour gagner du temps. Ce qui est quand même un petit peu suspect, quoi. Quand on apprend, gagner du temps, c'est un peu étonnant. Et quand je demande, mais pour gagner du temps, pour faire quoi ? Ben, pour regarder TikTok. C'est moins une bonne idée. Alors, c'est pas toujours le cas, d'accord ? Certains l'utilisent vraiment, utilisent cet outil formidable, parce que c'est un outil formidable, en tant qu'outil, pour aller découvrir, pour aller interroger, pour remplacer peut-être le prof particulier qu'ils n'ont pas, et pour finalement apprendre mieux.
L'IA, qui peut être un outil formidable pour apprendre, nous a dit Colin de la Higuera.
Des gens isolés, des gens allophones, donc des gens qui finalement s'éduquent dans une autre langue que leur langue maternelle, on sait que ça peut aider. D'accord ? On sait que quelque part, quand ça va un petit peu trop vite en classe, on peut redemander à l'IA de nous réexpliquer des choses. Mmh. Et finalement, on peut redemander plusieurs fois. Donc on n'est plus sur la même échelle de temps. On peut prendre notre temps à le faire. Encore faut-il avoir envie de le faire, encore faut-il y avoir accès. Donc il y a quand même des enjeux d'avoir accès à ces outils. Mais ça offre des opportunités, oui, qui pourraient être spécifiques ici.
La conférence de Colin de la Higuera aura lieu lundi soir à 18h à l'UNC. Et vous ne le savez peut-être pas, mais en ce 9 octobre, nous célébrons la Journée mondiale de la Poste. À cette occasion et dans le cadre de la Semaine bleue qui a pour but de lutter contre l'isolement des anciens, 130 agents du domaine postal de l'OPT se sont mobilisés pour écrire une ou plusieurs cartes postales adressées aux résidents de plusieurs EHPAD situés à Nouméa et dans le Grand Nouméa. Au total, c'est plus de 400 cartes postales qui ont été distribuées. Cette opération est une première et selon son succès, elle pourrait être reconduite l'année prochaine, élargie à d'autres EHPAD de la Grande Terre et des îles. Un mot d'actualité dans la région, direction l'Australie. La police fédérale a annoncé la création d'un service d'enquête qui va cibler en priorité les groupes susceptibles de porter atteinte à la cohésion sociale. Cette unité est intégrée au commandement de la lutte contre le terrorisme et c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ce service est dirigé par la commissaire Chrissy Barrett, laquelle a déclaré que, je la cite, « des groupes actuels et émergents érodent le tissu social de notre pays en prônant la haine, la peur et l'humiliation. Certains de ces groupes, a-t-elle poursuivi, se sont déjà livrés à des actes de vandalisme, à des destructions de biens et à des attaques contre des entreprises en raison de leur origine ethnique ou de leur religion. Si nombre de ces crimes ne relèvent pas du terrorisme, a-t-elle indiqué, la police fédérale a identifié des comportements préoccupants. Ces comportements, a averti la commissaire, sont susceptibles de dégénérer en violence à motivation politique ou en crimes haineux, mettant gravement en danger la communauté australienne. La police fédérale a adressé une mise en garde aux groupes concernés, a-t-elle insisté ? À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
18h13, seconde pause avant d'ouvrir notre page sport. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Le nouveau SUV Subaru Forester, un design renouvelé, moderne et affirmé. Le nouveau SUV Subaru Forester, 182 chevaux sous le capot, 4x4 permanent et technologie EyeSight pour une sécurité et un confort incomparables. Le nouveau SUV Subaru Forester, chaque trajet devient un moment de sérénité et de maîtrise. Venez le découvrir et l'essayer au village automobile au PK4 à Nouméa ou chez NC Motors à Koné. Le nouveau Subaru Forester, puissance, style et innovation réunis dans un SUV unique. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
RRB, première radio d'information.
Faisons du sport un levier de transformation sociale. C'est le thème d'un colloque organisé ce soir au Centre culturel Chibaou. La salle Sissi affiche complet pour ce premier événement de la Fondation Roger Cadour. Elle souhaite faire bouger les lignes et mettre le sport au cœur de la vie des Calédoniens pour favoriser la bonne hygiène de vie, la réussite scolaire ou encore le vivre ensemble. Antoine Comboiré, l'un des parrains de cette conférence et de la Fondation, était notre invité ce matin à 7h30.
Moi, je vis à l'extérieur, mais je pense Calédonie, je vis Calédonie. J'ai toute ma famille qui est là encore et c'est vrai que les retours que j'ai ne sont pas bons. Moi, je le fais déjà par rapport à nos jeunes d'ici.
Ouais.
Voilà, je vois beaucoup, là, je suis là depuis une semaine, là, qui sont donc dehors, qui traînent, qui n'ont pas de travail. Nous, on a un travail important. Essayer de faire donc, ce que certaines personnes nous ont fait à l'époque, là, qui nous ont servi donc, de modèle, et puis donc, de faire la même chose pour qu'aujourd'hui, on ait moins de décrochage scolaire, et puis des gamins qui puissent donc, avoir un travail, tout simplement. Quand on parle de projet pays, on parle de vivre ensemble. On parle donc de cohésion, on parle de solidarité, on parle de collectif, on parle d'équipe. Moi, ça me parle, moi. Quand on parle de sport, on parle de santé, on parle d'éducation, on parle d'égalité de chance. Ça me plaît. C'est vrai que quand Laurent est venu en me disant « Antoine, qu'est-ce que t'en penses ?» Faire des KDC dans quelque chose de beaucoup plus grand à l'échelle donc, du pays, à l'échelle de la région. Donc tout de suite, j'ai dit, ben, on y va. Mmh. Ce sont donc des valeurs qui me parlent vraiment.
Nous en avons profité pour demander si Antoine Comboiré allait reprendre du service. Après une opération des genoux, il espère bien retrouver les pelouses.
J'ai passé 5 saisons, donc c'était magnifique.
Ouais.
Mais voilà, j'avais besoin de couper, vraiment. Ouais. Parce que, encore une fois, me reposer, recharger les batteries et puis surtout me soigner. Voilà. Parce qu'après, l'idée, c'est... Dès que j'ai fait mes soins donc, de genoux, là, après je peux repartir au combat. Là. Mais j'ai envie de travailler, bien sûr, j'ai envie de m'amuser encore. Là. Moi, j'ai la chance d'avoir pu faire d'une passion un métier, c'est exceptionnel. Là. Je mesure la chance que j'ai, je suis vraiment un privilégié. Quoi.
Et vous pourrez retrouver Antoine Comboiré ce soir pour la conférence de la Fondation Roger Cadour qui a débuté il y a quelques minutes, c'est-à-dire à 18h, au Centre culturel Chibaou. Elle affiche complet. Du côté des résultats sportifs de nos Calédoniens en foot, vous le savez, la Nouvelle-Calédonie s'est imposée 2-0 à Gibraltar, un match amical pour préparer les qualifications au Mondial. Peu après l'heure de jeu, Jean-Jacques Attraoua a ouvert le score et en toute fin de rencontre, à la 95e minute, Germain Awegené a doublé la mise. Et puis J-1 pour la Mélanésienne Cup 2025. Demain, les sélections calédoniennes seniors, filles et garçons de basketball s'envoleront pour le Vanuatu. Une première étape de 3 jours avant de rejoindre Honiara aux îles Salomon pour une nouvelle Mélanésienne Cup. Objectif, une qualification pour les prochains Jeux du Pacifique Tahiti en 2027. Les 20 Calédoniens sélectionnés seront confrontés toute la semaine à Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon et le Vanuatu. Les deux premières équipes du tableau se qualifieront pour les Jeux à Tahiti. 18h17, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit, la lune et les étoiles brilleront généreusement sur la façade ouest, offrant une ambiance calme et poétique. Sur les autres régions, les passages nuageux se feront plus réguliers, laissant parfois tomber quelques averses, notamment le long de la côte est, ce qui est un petit peu moins poétique du coup. Le vent orienté à l'est s'établira entre 15 et 20 nœuds et se renforcera de Puebo à Belep où les rafales atteindront 30 à 35 nœuds. Sur l'ouest, le flux restera plus modéré, autour de 10 à 15 nœuds seulement. Les températures nocturnes varieront entre 18 et 22 degrés. degrés, descendront localement entre 14 et 18 degrés sur les zones les plus fraîches de l'ouest. Demain matin, la côte ouest s'éveillera sous un franc soleil dans une atmosphère lumineuse et paisible. Sur le reste du pays, des paquets nuageux circuleront dans le flux d'est, apportant par moments quelques gouttes sur le sud-est et l'île des Pins, sans réelles conséquences, bien heureusement. Le vent orienté est-sud-est restera soutenu entre 15 et 20 nœuds, avec des accélérations plus franches sur la pointe nord et Belep, où les rafales attendront 30 à 35 nœuds. Côté marée, elle sera haute ce soir à 21h18 pour 1,51 m, pour redescendre demain matin à 3h38 pour 0,15 m, pour enfin remonter vendredi dans la matinée à 10h05 pour 1,61 m.
Eh bien, merci beaucoup Pierre pour cette météo des plus complètes. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.